Et bienvenue sur le mag, sur CFM Cahors, ou plutôt dans le mag sur CFM Cahors. C'est un moment d'histoire que nous allons vivre ensemble, d'histoire et de religion mêlée. Parce que dans le Lot, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quand même un saint. Bah ouais, et il s'appelle Saint-Jean-Gabriel Perboire. Alors il a toute une histoire en plus, il y a encore sa maison que l'on peut visiter dans le Lot, mais on va savoir un petit peu tout ça de plus près grâce à notre invité qui vient de ressortir un livre sur Jean-Gabriel Perboire, un livre qui a été édité il y a déjà quelques années et qui ressort là maintenant aux éditions Edicos. Vous avez compris que notre invité, eh bien, c'est Gilles Chevriot. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Alors effectivement, un livre plus petit que d'habitude d'ailleurs, entre parenthèses, on était tellement habitués, Gilles Chevriot, bonjour.
Bonjour Yannick.
On était tellement habitués à voir des livres de gros format là, que là c'est presque un roman, livre de poche.
Je m'en explique.
Oui.
Tu as indiqué dans ton introduction que ce livre avait déjà fait l'objet d'une précédente édition il y a 25 ans et j'ai respecté finalement le format qui avait été celui, on va dire, retenu pour cette première édition. Sachant que oui, le mot roman n'est pas forcément péjoratif dans cette histoire.
Roman historique alors.
Roman historique, oui, d'un personnage lotois qui, on va dire, a quitté une vie qui lui était toute tracée pour la consacrer au Christ.
Il a pas bougé ce livre, c'est tel quel, ou est-ce qu'il y a eu des modifications, mises à jour?
Nous avons respecté en accord avec l'auteur, le père Jean-Yves Ducournau, l'intégralité du texte original. Nous avons même repris la préface de l'évêque de l'époque, Monseigneur Guédon, et bien sûr, nous avons sollicité Monseigneur Camiade, notre actuel évêque, pour une nouvelle préface, à sa patte, hein, bien sûr, comment il ressent cette, aujourd'hui, 30 ans après, cette courte vie de Jean-Gabriel.
Alors, Jean-Gabriel Perboire, c'est un livre écrit par Jean Ducournau. On va commencer déjà par ça. Qui est Jean-Yves Ducournau?
Alors, Jean-Yves Ducournau, c'est un prêtre qui est un prêtre lazariste, c'est-à-dire qu'il dépend de la mission de Saint Vincent de Paul. Alors, on les appelle les lazaristes parce que autrefois, cette mission était dans un lieu qui s'appelle Saint-Lazare, qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est comme ça qu'est venu le nom des lazaristes. Ce prêtre était en mission sur le canton de Catus, tout près de Cahors. Il avait été sollicité par l'évêque de l'époque pour venir renforcer les prêtres en exercice sur le département. Et vu la proximité entre Catus et Montgesti, étant donné que effectivement Jean-Gabriel Perboire était aussi un prêtre lazariste,
forcément, ça crée des liens.
Voilà, ça crée des liens. Et à la demande de ses supérieurs, comme il l'explique, Jean-Yves Ducournau a donc écrit la vie de son confrère Jean-Gabriel, qui est bien sûr connu mondialement. Alors déjà, comme tu le dis, nous ne savons pas dans le Lot qu'il y avait un saint, mais en plus c'est un saint mondial, c'est certainement le personnage, on va dire, dont le nom est le plus connu de par sur la planète, parce que parce que les saints sont connus dans toute la catholicité, voilà. Même au-delà de la catholicité, bien sûr, pour les églises qui vénèrent les saints, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
C'est vrai.
Et d'autre part, bien pas parce que il étant vénéré, forcément son nom porte dans les églises, mais dans les églises des autres pays. Alors, bien sûr, on va d'abord citer les plus ferventes. L'Amérique du Sud, par exemple, la Chine, par exemple. Et puis les plus encadrés, comme la Chine, parce qu'effectivement, Jean-Gabriel est connu en Chine.
Encore maintenant ?
Oui, il est connu maintenant. Il y a toujours des survivances, bien sûr. D'abord parce que l'Église catholique, au fil des missions pour évangéliser les peuples, comme c'était le cas à cette période du 19e siècle, ils ont su, s'implanter dans un pays qui était quand même très fermé, qui était, en pleine guerre. Il y avait une famine extraordinaire à cette période-là, pour asservir le peuple, pas parce que effectivement les richesses profitaient à d'autres et non pas au peuple.
Ça se saurait en Chine si c'était le cas.
Voilà, c'était comme ça à l'époque. Maintenant, n'allons pas
c'est
plus.
C'est un pays plus ouvert.
Je pense quand même, oui, malgré tout, on va dire ça. Parce qu'il y avait aussi la guerre de l'opium à l'époque aussi. Et donc, bien sûr, la guerre de l'opium, c'était les trafics avec le monde occidental. Et donc, de fait, ces missionnaires qui venaient pas pour faire de l'argent étaient aussi, dans le même sac et on ne voulait pas les voir parce qu'ils allaient aussi pervertir à leur façon le peuple autochtone. Voilà. Donc, Jean-Yves Ducournau était, on va dire, prêtre de la mission comme Jean Gabriel, et puis a eu, bien sûr, accès à tous les documents d'époque qui ont été conservés par la maison mère qui est à Paris, rue de Sèvres.
Mais on prie des saints pour chaque circonstance. Il y a des saints qui sont dédiés à une tâche. Saint Benoît pour les voyageurs, mais Saint Jean Gabriel, c'était quoi lui sa spécialité? Parce que je vois qu'à la fin du livre, il y a la prière à Saint Jean Gabriel.
Oui, mais je crois, enfin à ma connaissance maintenant, je ne suis qu'un transmetteur, un passeur.
Bien sûr.
C'est pas moi qui ai pris la plume pour cet ouvrage et j'essaye de me limiter à ma mission. Qui est celle, effectivement, de faire passer le message de l'auteur vers les futures lectrices et lecteurs et faire connaître cet ouvrage au plus grand nombre. À ma connaissance, Jean Gabriel n'a pas, comme tu le dis, de spécialité.
Ah oui.
Voilà. Après, on peut, effectivement, dans la litanie des saints, on peut, effectivement, lui demander de d'intercéder pour nous, de prier pour nous. Et très honnêtement, moi qui ne suis pas de confession catholique, je n'ai pas forcément
tous les
clés
détails
pour répondre à ta question.
Bon.
Mais ceci étant, il suffit de lire cet ouvrage qui, même s'il est, conçu comme un roman, se lit très facilement.
Hein. Ouais,
c'est vrai que voilà, il y a l'essentiel.
Le train, hein.
Oui.
Et puis, alors, surtout, ce qui est bien, c'est que, effectivement, alors, moi, j'aime bien utiliser le terme roman parce que c'est vraiment écrit comme tel, alors que c'est purement historique.
Oui, tout à fait.
Alors, historique et religieux. Est-ce que, à un moment, dans ce roman, il y a quand même eu des choses qui ont été enjolivées? Est-ce que tous les détails qui sont et que l'on connaît sont véridiques ou parfois il y a des détails dont on doute un peu de la véracité?
Non, je crois pas. Je crois que, effectivement, missionnaire et martyr, comme il est décrit dans cet ouvrage. Missionnaire, bien sûr, c'était le cas de ce qui s'était assigné de partir évangéliser avec beaucoup de difficultés. D'abord, les difficultés, c'était des difficultés liées à sa position dans sa famille. C'était l'aîné d'une famille de 8 enfants. Les parents étaient agriculteurs sur la commune de Montgesti. C'était une belle exploitation. J'ai entendu dire même que c'était la plus belle exploitation du village.
Bah, je vois la carte postale de sa maison. Déjà, c'est sûr que ce n'était pas une petite exploitation.
Exactement.
Hein.
Alors, maison, bien sûr, qui est toujours, toujours à cet endroit et qui se visite toute l'année. On pourra en dire quelques mots. Voilà. Et il était destiné donc à reprendre la ferme. Il avait un oncle qui était prêtre. Qui était parti à Montauban. Et je crois que c'est de voir cet oncle parti à Montauban qui lui a, on va dire, un petit peu donné une première direction. En plus, Jean Gabriel était de santé fragile. Et c'est ce qui a aussi été un facteur difficile qu'il a su surmonter à force de persuasion auprès de ses pairs. À qui il a dit « Moi, je veux absolument partir en Chine », etc. Alors qu'on lui avait fortement déconseillé, parce que déjà, pour partir en Chine depuis Le Havre, le port d'embarquement...
Ça fait quelques temps de voyage.
Oui,
ouais.
C'est avec les différentes escales, Macao, etc., etc. On les décrit dans ce document. C'est au moins, avant d'arriver à la mission qui lui était assignée, à Wuhan, exactement, il y a...
Ah.
Oui, Wuhan.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est un nom qui résonne...
Ouais, en ce moment, ouais.
Oui, depuis un moment, déjà,
ouais.
Depuis deux ans, quoi,
depuis
on va dire.
Ans,
hein.
Ouais.
Voilà. Et il a mis 16 mois, quand même.
Pour faire le voyage.
Entre les différents embarquements, parce qu'il avait fallu changer de bateau, les galères qui peuvent exister pendant le voyage, des avaries, voilà, etc., des rencontres malveillantes, parce que bien sûr, on détrousse aussi les voyageurs en mer comme on le fait sur la terre.
Mais il vivait de quoi pendant ce temps ?
Ah ben, il était pris en charge par l'Église, par sa congrégation, qui avait assuré bien sûr son voyage complètement jusqu'à destination. Et puis après, une fois qu'on arrive là-bas, il faut rentrer discrètement. Discrètement, ça veut dire que c'est pas du point A au point B en ligne directe et en 5 minutes chrono.
Et puis surtout pas habillé en prêtre.
Et pas habillé, il faut se grimer, il faut avoir apprendre des rudiments de la langue, on ne peut circuler que la nuit, sur des jonques, avec des gens qui sont des complices.
C'est presque digne d'un roman d'espionnage au final,
mais
je pense
que oui, parce que si on avait... Bon là, bien sûr, il n'est pas question de donner l'intégralité de sa correspondance, parce qu'il a beaucoup écrit à sa famille, à ses pères, à ses professeurs, en expliquant tous ces détails. Et effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, de persévérance, sachant qu'il était conscient que pour lui, c'était un voyage sans retour.
Ah oui ?
Ah oui.
Il savait qu'il allait mourir là-bas. Quand,
Quelques-uns de ses supérieurs qui étaient déjà installés là-bas, parce qu'il n'était pas le premier, il y avait quand même quelques lieux qui avaient déjà été, fréquentés par des missionnaires en poste, avec une entente, on va dire. C'était chaque gouverneur de province, finalement, qui tolérait ou pas la présence des missionnaires étrangers. Alors, dans certaines provinces, ça se passait mieux que dans d'autres. Il se trouve que là où il est allé, peut-être qu'il était un peu trop virulent, peut-être qu'il ne rentrait, il ne répondait peut-être pas à une sorte de tempérance qu'on lui demandait. Et d'ailleurs, c'est dit dans le document, on le sentait fragile parce qu'il était trop...
excessif.
Excessif, parce qu'il voulait vraiment remplir cette mission qu'il s'était assignée. Et je pense que cette fin tragique de son martyre le 11 septembre 1840, à la suite de nombreux procès, tortures, qui sont tout décrits dans cet ouvrage, il savait que c'était sa fin, quoi. Voilà, il savait que c'était sa mission, qu'il devait en passer par là. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il était, il allait jusqu'au bout de la passion du Christ, c'est-à-dire qu'il ne blâmait pas ses bourreaux. Voilà, il n'avait aucune haine.
Il est mort à quel âge ?
38 ans.
Et quand est-ce qu'on l'a béatifié ?
Alors, il a été canonisé il y a 25 ans. La béatification, dans cet ouvrage, il y a l'intégralité
En novembre 1889,
voilà,
par Léon
voilà,
XIII.
Novembre, voilà, 10 novembre 1889, par Léon XIII à Rome, et donc la canonisation 1996. Donc c'est un long parcours, hein, bien sûr, ça fait appel à ce qu'on appelle les dossiers d'instruction pouvoir... D'abord, on est vénérable, ensuite on est béatifié, et ensuite on est canonisé. Voilà.
Oui, parce que dans ce livre, ce qui est bien à la fin, c'est qu'effectivement, en deux pages, il y a les principales dates de la vie de Saint Jean Gabriel.
Tout à fait. Et même la description de sa famille. Et l'on voit d'ailleurs, comme c'était le cas dans les nombreuses familles, on voit que beaucoup d'enfants sont rentrés en religion. Alors voilà, et je crois que sur les huit, je crois qu'il y en a... trois, quatre, il y a plus de la moitié qui ont fréquenté les séminaires, mais tout du moins l'Église catholique, les couvents ou les missions ou carrément voilà, ils sont allés, voilà, je vois une fille de la Charité en 1896, Charité deux fois, ensuite après de la mission Jacques, effectivement. Une sœur qui est rentrée en Carmel est décédée juste au moment où elle voulait rentrer au Carmel. Enfin voilà, il y en a plus de la moitié qui sont entrées en religion.
Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on l'a condamné ? Est-ce que c'est parce qu'il était étranger, ou c'est vraiment parce que c'est la religion qui ne convenait pas à celle, au mode de vie de la Chine ?
Non, je crois qu'il est... Enfin, non, parce qu'après, les choses... Enfin, bien sûr qu'il y a eu d'autres martyrs. Hein. D'ailleurs, il suivait l'exemple d'un aîné qui était aussi un lazariste, hein, le père François-Régis Clay, qui a été...
Il y a eu d'autres personnes qui sont mortes avant, voilà, des missionnaires, lui, il le savait.
Voilà, tout à fait. Voilà, le père François-Régis Clay, qui lui a été, comme Jean Gabriel, étranglé en février 1820. Jean Gabriel Perboire est né en janvier 1802, donc en 1820, il avait 18 ans, et effectivement, il suivait les traces de François-Régis Clay. Et il en parle d'ailleurs dans tout au long de son ouvrage, et finalement il voulait être un peu à son image comme ce condisciple.
Alors effectivement, parce qu'il y a un annexe dans le livre qui récapitule tous les martyrs,
oui,
chrétiens en Chine. Et
fait.
Finalement, on se rend compte que ça, c'est pas si vieux que ça le dernier, hein, entre 1965 et 1976, à l'époque de la révolution culturelle, avec une persécution violente.
Voilà.
Donc ça a donné un peu. Et alors c'est très souvent les prêtres lazaristes d'ailleurs qui étaient par là-bas.
Oui, parce qu'effectivement, il y avait des congrégations qui étaient beaucoup plus, on va dire... présente sur les terres lointaines que d'autres. Hein. Après, c'était un choix. Et puis, à l'époque aussi, il y avait une espèce de petite concurrence entre les congrégations.
Ah.
Hein. Et bien sûr,
d'accord,
c'est qui allait le plus loin, le plus fort. Voilà, c'est... Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous invitons nos auditeurs à lire cet ouvrage, mais aussi à se rendre dans la maison natale de Jean-Gabriel Perboire, qui se visite toute l'année. Elle est restée dans son jus, c'est-à-dire dans son état d'origine. On voit encore la chambre à coucher, la salle à manger.
Et la grande cheminée
la
avec
grande
l'horloge.
Cheminée, les reliques, etc. Ce lieu est ouvert toute l'année. Elle est surveillée. Il y a un membre de sa famille... Simone Saint-Aubert, dont le numéro de téléphone figure dans l'ouvrage. Alors, il est conseillé quand même d'appeler avant de pouvoir visiter. On peut se rendre aussi dans ce lieu lors des Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire le deuxième week-end de septembre. Et puis, le 11 septembre, ou tout du moins le week-end le plus proche du 11 septembre, il y a chaque année une grand-messe avec une procession pour honorer Jean Gabriel, comme c'est fait chaque année. On peut adhérer à l'association. Il y a un site internet, www.jeangabrielperboire.org. Voilà, l'appel est lancé pour...
Et puis ce livre... Hein,
pour faire connaître cette belle histoire.
Ce livre de Jean-Yves Ducournau,
oui.
Une semence d'éternité, Saint Jean-Gabriel Perboire, prêtre de la mission martyr, premier saint de Chine. Est-ce que c'est un livre d'ailleurs qui réhabilite un petit peu le saint?
Oh,
le Saint Jean-Gabriel?
Je ne crois pas, non.
Est-ce qu'il avait besoin déjà dans un premier temps?
Non, c'est une volonté de poursuivre finalement
On le connaissait mal peut-être.
Ouais. Faire connaître Jean-Gabriel. Et puis Jean-Yves Ducournau est quelqu'un qui a la plume facile, qui est aussi un homme d'extérieur. Parce que lorsque l'on regarde le petit texte qui le présente sur la quatrième de couverture, aumônier militaire en réserve citoyenne, chanoine de Saint-Louis des Invalides, prédicateur de retraite spirituelle et conférencier. Il a beaucoup voyagé, il a accompagné bien sûr des missions, des OPEX comme on dit aujourd'hui.
Et chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.
Voilà, et donc il a finalement accompagné les soldats dans les missions extérieures et apporté, on va dire, un secours que... attendent les uns et les autres une bienveillance, un sentiment de solidarité.
Une semence d'éternité, Saint Jean-Gabriel Perboire, prêtre de la mission, martyr, premier saint de Chine, de Jean-Yves Ducournau aux éditions Edicos, que l'on trouve, j'imagine, ça y est, en place dans toutes les bonnes librairies du Lot.
C'est en cours.
Parce qu'il est tout frais, hein, il vient juste de sortir.
Il écoutait l'imprimerie, il nous l'a livré hier.
N'hésitez pas, vous allez apprendre énormément de choses sur Saint Jean-Gabriel. C'est pas un livre chiant, excusez-moi de le dire comme ça, puisque au contraire, c'est un roman historique. On vous raconte, c'est très bien écrit d'ailleurs, entre parenthèses.
Oui, c'est très simple. C'est très simple. Écrit dans un, de manière très simple,
pour que tout le monde,
par tout le monde.
Voilà.
Et ça, c'est important.
Et ça, c'est quelque chose, c'est presque même une histoire que vous pouvez raconter à vos enfants. Pas trop le soir avant de dormir, parce qu'au moment des tortures, je suis pas sûr. Hein, mais bon.
Bon, les parents savent faire le.
Oui, voilà, ils savent faire. Ils sont assez grands. Gilles Chevriot, pendant que je t'ai ici, oui. Au studio, ton prochain livre, il est en cours, la souscription est ouverte.
Oui.
Et là, on est vraiment encore en plein cœur du patrimoine, parce que de toute façon, Oedikos, c'est son ADN.
Oui.
Là, alors ça tombe bien, en ce moment où le Tour de France va passer à Rocamadour, eh ben, on va parler du fromage de Rocamadour.
Oui.
Et toi aussi.
Oui, absolument. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, au hasard des rencontres avec des auteurs qui savent, comme tu l'as expliqué, que la ligne éditoriale d'Oedikos, c'était le patrimoine. Sous toutes ses formes, il y a tellement de choses qui existent. Et là, on va parler d'une richesse gastronomique. Le Cabécou du Quercy, le Rocamadour, puisque...
on l'appelle...
Il est Cabécou du Quercy, mais depuis quelques années, il bénéficie de l'appellation d'origine protégée sous le nom le Rocamadour, et qui définit bien sûr des conditions d'affinage, d'épaisseur, de dimension, enfin,
géographique,
bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, la production, c'est le Lot, c'est un tout petit peu du Tarn-et-Garonne. Je crois qu'il y a un petit peu aussi de la Dordogne. Enfin, voilà, il y a en fin de compte une zone qui est clairement définie dans les textes. Il y a un syndicat qui a son siège à la Chambre d'agriculture.
Oui.
Et donc, voilà, l'auteur Jacqueline Bazalgue, qui est une universitaire qui habite à Kouzou, donc à 7 km de Rocamadour, m'a proposé l'année dernière ce texte qu'elle a écrit. Et j'ai tout de suite accepté parce que...
Tiens donc
D'abord,
c'est étonnant.
Parce qu'il y a 2 ans, j'avais publié un livre sur l'histoire de la brebis d'Écosse, notamment sur l'histoire de Salène. Et donc, je me dis, brebis, chèvre, oui, bien sûr, on va dire, même combat.
Totalement.
Voilà, donc le livre est en préparation. Il est...
Avec des photos, comme d'hab, j'imagine.
Ah oui, alors celui-ci, il va y avoir, on va dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. D'abord, des photos d'époque, des cartes postales anciennes et des documents d'époque, hein, notamment des étiquettes de fromage, des vitrines de magasins.
Parce qu'on aime bien le fromage de Rocamadour, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément son histoire, au final.
Exactement. Alors là, c'est l'histoire depuis, on va dire, la guerre de Cent Ans, jusqu'à nos jours, avec ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire cette culture familiale, hein, l'agriculture familiale. La chèvre, il y avait trois, quatre bêtes. On tirait bien sûr les subsistances de sa production laitière, les fromages, comment ils ont évolué au fil des temps, dans leur épaisseur, la composition, est-ce que certains étaient coupés avec du lait de vache, d'autres pas. Après, on fait des assemblages avec aussi pour les rendre plus savoureux avec tel ou tel condiment, etc.
J'en salive là.
Voilà. Et puis la chèvre par elle-même, qui était un animal qui était exploité un petit peu comme le cochon, excuse-moi, jusqu'au bout. C'est-à-dire que le chevreau qui naissait pour la lactation était vendu, et allait effectivement en boucherie. La bête, une fois qu'elle était plus de ce monde, on utilisait ses cornes, on utilisait sa peau, sa fourrure, etc. Enfin voilà, tout ça c'est expliqué dans cet ouvrage, dans le détail, et on arrive jusqu'à aujourd'hui la filière qui tire finalement le Rocamadour au-delà de nos territoires, puisqu'il est connu bien sûr dans la France entière, mais il est connu aussi à l'export. Et c'est lui qui, finalement, est la bannière de ce fromage du Quercy.
Et qui sera remis, d'ailleurs, en valeur aussi durant le passage du Tour de France, parce que forcément, quand la télé va être là, ils vont parler de ce fromage de Rocamadour. Enfin, on l'espère, sinon, honte à eux, quoi.
Oui, tout à fait. Hein, et puis, il en sera question aussi le jour de la fête des fromages qui a lieu le premier dimanche de juin.
En tout cas, vous pouvez déjà souscrire. L'apparition est prévue pour mai 2022. Et vous allez sur le site oedikos.fr pour l'ouvrage du Cabécou, du Quercy au Rocamadour AOP, chèvre, homme, femme, au fil de l'histoire. Mais, et puis bien sûr, une semence d'éternité concernant Saint-Jean-Gabriel Perboire. Pareil aux éditions Oedikos, et là vous allez toujours chez votre marchand, chez votre libraire. Et et edecos.fr.
Absolument.
Merci Gilles Chevriot.
Merci Yannick.
À bientôt. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal. Et puis vous pourrez le réécouter à 17h et 21h30. Et en podcast sur cfmradio.fr.